11h30, Infomag avec Jean-François Baudin.
La sécurité est assurée à l'approche du 24 septembre, nous a dit le haut-commissaire qui était notre invité ce matin. 2600 policiers et gendarmes sont toujours présents sur le territoire. Une page d'histoire commémorée ce matin à la Croix de Lorraine. Le 19 septembre 1940, la Calédonie se ralliait à la France libre. C'est parti pour la 31e foire de Koumac. La journée des professionnels a permis de désigner les meilleurs produits de l'agriculture et de l'élevage ce matin. Des manifestations contre l'austérité budgétaire en métropole avec quelques débordements. La journée lancée par les syndicats a rassemblé quelques 500 000 personnes. Emmanuel Macron poursuit ses charges contre Israël. Dans une interview diffusée sur une chaîne israélienne, il estime que l'État hébreu détruit son image et sa crédibilité. Et puis en sport, l'entrée ratée de Monaco en Ligue des Champions, c'est du football. Les Monégasques ont été battus 4-1 en Belgique par le FC Bruges. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui se poursuivra avec le magazine Transparence comme tous les vendredis. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Un magazine Transparence dans lequel vous recevrez cette semaine Alcide Ponga.
Oui, c'est Alcide Ponga qui sera invité de Transparence. Avec le président du gouvernement, nous reviendrons sur le 54e sommet du Forum des îles du Pacifique auquel il a participé à Honiara. Mais nous parlerons également, bien sûr, de l'actualité politique calédonienne et nationale. Nous reviendrons également sur l'accord de Bougival ou encore sur le transport aérien dont il a la charge. On se retrouve d'ici une demi-heure en compagnie du président du gouvernement, Alcide Ponga. Ce sera juste après votre journal.
Et on vous retrouve évidemment à 16h45 pour le Club Politique.
Et dans ce Club Politique ce soir, nous reviendrons sur l'avis favorable du Congrès au report des élections provinciales à juin 2026. L'occasion d'évoquer également la question de la reprise des discussions entre partenaires locaux, l'audition de Christian Théin par la Commission des lois du Sénat, ou encore l'avis défavorable donné à ce report par le Sénat coutumier. Nous nous interrogerons aussi sur la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité sur le corps électoral qui a été déposé par l'association Un cœur, une voix. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer aujourd'hui. Nous nous interrogerons sur les chances d'aboutir de cette QPC. Et puis nous parlerons aussi du renforcement du dispositif de sécurité avant le 24 septembre. Et enfin, dans l'actualité nationale, nous nous demanderons où en sont les consultations du Premier ministre Sébastien Lecornu.
Les gendarmes sont intervenus hier à Ploumes. Un chauffard effectuait un rodéo sauvage avec sa voiture. Les témoins qui étaient sur place doivent être entendus pour connaître les circonstances exactes des faits. D'après nos informations, en effet, un individu a été grièvement blessé. On ne connaît pas la nature de ses blessures. Des riverains ont évoqué des coups de feu. Vigilance, disponibilité, réactivité et fermeté, ce sont les principes invoqués par le haut-commissaire Jacques Billon en matière d'ordre public. À l'approche du 24 septembre, une date sensible sur le territoire, il est venu nous présenter le dispositif mis en place pour assurer la sécurité et l'ordre public, en commençant par l'interdiction pendant 11 jours de la vente d'alcool. Il s'agit, souligne le haut-commissaire, d'une mesure préventive.
À la veille de nombreux événements prévus sur l'ensemble du territoire, je parle de festivals, de rassemblements culturels, commémoratifs, mais aussi de déclarations politiques. Et pour éviter tout trouble lié à une consommation excessive d'alcool, j'ai décidé en effet de prendre une mesure préventive s'agissant de la vente. Et cette vente de boissons alcooliques ou fermentées est interdite sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie du 18 septembre au 28 septembre inclus. C'est une mesure que j'ai jugée nécessaire pour garantir la sécurité et la tranquillité publique.
On parlait du 24 septembre, mais là, c'est quand même sur une période de 11 jours. Ça nécessite une telle longueur, une telle dans le temps.
Nous avons des événements qui vont courir sur une période assez longue. Ça commence ce week-end, ça se poursuit le 24 septembre, en milieu de semaine. Et j'ai décidé donc de couvrir l'ensemble de la période de façon préventive et pour ne prendre aucun risque.
Le haut-commissaire est revenu sur les effectifs des forces de l'ordre et sur les missions qui leur seront affectées, avec notamment le maintien de 20 escadrons de gendarmes mobiles.
Ça représente aujourd'hui 2600 policiers et gendarmes qui sont déployés sur tout le territoire de la Nouvelle-Calédonie, incluant les 20 escadrons de gendarmes mobiles auxquels vous faites référence. Et ce qui est important pour nos concitoyens, c'est de savoir que ce dispositif permet de mettre en place jusqu'à 460 patrouilles sur le terrain tous les jours, nuit et jour.
Ce sont des forces qui vous semblent suffisantes et adaptées à la situation calédonienne ?
J'ai parlé de disponibilité, j'ai parlé de réactivité, j'ai parlé de fermeté. Le dispositif que j'ai conçu en lien avec le général commandant de la gendarmerie et puis la contrôleure générale directrice de la police nationale a été conçu pour cela.
Les forces de l'ordre ont vocation à rester autant que de besoin, ajoute le haut-commissaire Jacques Billon, qui est conscient de l'inquiétude des Calédoniens et de la réalité de la délinquance.
Le sentiment d'insécurité reste très fort. Nous avons des faits de délinquance marquants est marqué au niveau des vols, notamment des cambriolages de résidences principales, au niveau des violences intrafamiliales. Je pourrais aussi parler des incendies volontaires, des caillassages, des tentatives d'entrave sur la voie publique. Tout ça est une réalité et ça traduit une situation de tension qui nécessite notre présence constante sur le terrain. Ce sont près de 120 policiers et gendarmes qui ont été blessés dans l'exercice de leurs fonctions depuis le début de l'année, souvent victimes de caillassages. Donc ces chiffres mettent en lumière une double réalité, celle d'une délinquance bien présente, mais aussi d'une mobilisation renforcée des forces de sécurité, parce que j'insiste sur le fait que les interpellations sont nombreuses et le taux d'élucidation est important.
Et dans cette période particulière, le dispositif de forces de l'ordre concerne l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie.
J'ai souhaité mettre en œuvre un dispositif de contrôle sur l'ensemble du territoire, en faisant un effort particulier, bien sûr, sur le Grand Nouméa, mais j'insiste, j'ai des capacités d'intervention rapides sur le reste du territoire. En lien avec le procureur de la République, l'effet recherché consiste à garantir la circulation sur l'ensemble du territoire, garantir l'intégrité des bâtiments publics, commerces et également les sites sensibles. Et vraiment, j'ai demandé à ce que les forces soient mobiles, notamment sur les points sensibles qui ont été identifiés, cartographiés, reconnus, pour procéder rapidement à des interpellations, si cela s'avère nécessaire, et prévenir toute action violente sur ces zones particulières.
Le haut-commissaire a également confirmé le dispositif particulier mis en place pour assurer la sécurité des établissements d'enseignement, en relevant que depuis le début de l'année, 200 faits d'incivilité et de violence y ont été recensés. Il précise que des opérations de sensibilisation sont menées régulièrement dans les établissements scolaires. Dans un tout autre domaine, Jacques Billan a également évoqué l'aide financière de l'État et il nous a annoncé le retour prochain de Claire Durieux, la directrice de la mission interministérielle, pour plusieurs semaines. Une interview du haut-commissaire Jacques Billan qui est à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet. Le dispositif de sécurité renforcé sur l'ensemble du territoire dont parlait le haut-commissaire a également été évoqué par la directrice de cabinet du haut-commissaire, Anaïs Saïd Mansour. Elle a rappelé qu'à l'approche du 24 septembre et des événements festifs et commémoratifs autour de la fête de la citoyenneté, le mot d'ordre était « être là où il faut, quand il le faut ».
Les forces de sécurité sont là pour protéger les Calédoniens. L'idée de notre dispositif, être là où il faut quand il le faut, c'est pas une belle phrase, c'est vraiment être là pour rassurer, être visible, prévenir aussi la commission de faits et intervenir rapidement pour protéger la population. En effet, là, sur ces prochains jours, on a un nombre important d'événements. Nous, notre idée, c'est de permettre d'accompagner les rassemblements pacifiques, comme ça a été le cas hier avec l'ISTKE, dès lors qu'un rassemblement se tient de façon pacifique, avec un travail en amont. Et on s'en félicite pour le rassemblement syndical d'hier. Nous, on est là pour assurer la protection du rassemblement. Par contre, vraiment, il n'y aura aucune complaisance. Une réponse très ferme de l'État sur tout acte de violence et de délinquance. C'est pour ça que nous travaillons beaucoup avec les responsables de tous les rassemblements qu'il peut avoir sur l'ensemble du territoire, afin d'être présent. On peut se rassembler dès lors que c'est pacifique. Par contre, il n'y a aucune place pour la délinquance, pour les troubles à l'ordre public.
Et de son côté, la directrice territoriale de la police nationale, Marjorie Ghisoli, avait rappelé qu'elle avait vu ses effectifs être renforcés pour cette période.
On a déjà beaucoup d'effectifs et effectivement, sur cette période-là de cette semaine, on renforce encore nos effectifs, avec des renforts aussi qui viennent de métropole, pour faire, je dirais, comme habituellement, être visible, être présent et être réactif, mais aussi parce qu'on a des enjeux supplémentaires cette semaine, ne serait-ce que de festivités qui peuvent se passer dans les rues, de rassemblements, donc il faut qu'on soit présent. On reçoit une cinquantaine de policiers de métropole qui sont en appui sur des missions plutôt spécialisées, que ce soit de l'anticriminalité ou que ce soit de l'appui en centre d'information et de commandement, parce qu'on a les besoins sur la voie publique. On a des besoins aussi d'enquêteurs pour appuyer évidemment les interpellations qui peuvent avoir lieu. Et puis on a aussi besoin de policiers qui soient là pour répondre aux victimes. Je pense aux appels 17. L'objectif, c'est de ne pas inquiéter la population en disant mince, s'ils renforcent, c'est qu'il se passe quelque chose. Non, on renforce parce qu'on veut être là et puis parce qu'on veut rassurer les habitants en leur disant voilà, on fait le job, on s'adapte, on s'organise, on sera présent, on sera visible et vous pouvez compter sur nous.
Et rappelons que 2600 policiers et gendarmes sont actuellement présents en Nouvelle-Calédonie.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à notre question d'hier et 74% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que l'interdiction de vente d'alcool pendant 11 jours à proximité de la date du 24 septembre est une mesure adaptée à la situation. Ils sont 26% à penser que c'est une mesure excessive. Voici notre question du jour. Cela fait 10 jours que Sébastien Lecornu a été nommé Premier ministre et il n'a pas encore annoncé la composition de son gouvernement. Souhaitez-vous que que Manuel Valls conserve le ministère des Outre-mer. Si vous souhaitez que Manuel Valls reste ministre des Outre-mer, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Il y a 85 ans, la Nouvelle-Calédonie se ralliait à la France libre. Une commémoration a eu lieu ce matin au pied de la Croix de Lorraine, au Mont Coffin, pour rendre hommage à ces centaines de broussards qui ont rejoint les rangs de la Résistance, Léana Colombo.
Oui, c'est un moment fort de l'histoire calédonienne dont il est important de se souvenir. Des milliers d'hommes et de femmes ont refusé la défaite et l'armistice et ont décidé de rallier la France libre du général de Gaulle. En Nouvelle-Calédonie, malgré la distance, le territoire s'est rallié dès le 19 septembre 1940, soit il y a 85 ans. Cette cérémonie a également été l'occasion de rendre hommage aux soldats du bataillon du Pacifique Raymond Perrault, mais aussi au résistant René Boucher, oncle de Sonia Lagarde. Forcément, pour le maire de Nouméa, cette cérémonie avait une résonance particulière.
Il y a eu ce fameux bataillon du Pacifique. Mon père, plus directement, en a fait partie, puisqu'il a participé aux batailles de Bir Hakeim. Et puis là, on a rendu hommage à un frère de ma mère, qui s'était engagé lui aussi, et qui finalement a été fait prisonnier par les Allemands. Il en est ressorti et il a été un résistant. Et donc il était dans le maquis et en fait il a été fusillé par les Allemands en 44. Donc son nom figure sur le monument aux morts de Farino, puisque la famille Boucher est originaire de Farino. Je crois qu'il est temps, avec d'autres d'ailleurs, qui sont passés un petit peu dans l'oubli, qu'on puisse remettre ces noms, c'est la volonté de la France libre, je suis d'accord avec ça, pour qu'ils figurent sur le monument aux morts de la place Bir Hakeim. Donc c'est un bel hommage qui a été rendu ce matin. C'était une belle cérémonie avec de l'émotion.
Plus qu'une date historique, ce ralliement est un symbole pour la Nouvelle-Calédonie qui rappelle que pour une cause commune, la population calédonienne est capable de se rassembler, explique Michel Mourguet, délégué général de la Fondation de la France Libre en Nouvelle-Calédonie.
L'importance, d'abord, elle est patriotique, évidemment. Bien que la Calédonie soit extrêmement loin de la métropole et des fureurs qui s'y passaient en 1940, les gens ici étaient au courant de ce qui se passait en métropole. Et la plupart des Calédoniens refusaient l'armistice et refusaient donc cette infamie pour eux. Et nos intellectuels calédoniens, nos hommes politiques calédoniens, bien que de conception et de vision différentes de l'avenir du territoire, puisque déjà à cette époque on parlait d'autonomie, ont décidé de mettre dans leur poche leurs convictions politiques et de créer des comités de Gaulle de manière à faire passer ce message du ralliement de la colonie à la France libre. Et ça, quand on voit ce qu'on vit aujourd'hui, c'est vraiment un exemple du passé qu'il faut se remémorer, réactiver même, je dirais, pour savoir ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, nos anciens nous ont montré l'exemple il y a 85 ans. C'est à nous de faire pareil aujourd'hui.
Aux côtés du maire de Nouméa était également présent sur le rang protocolaire le haut-commissaire Jacques Billon, Isabelle Chamorro, membre du gouvernement, Philippe Blaise, premier vice-président de la province sud, Veima Falaéo, président du congrès, le directeur adjoint de la police nationale Romain Perrault et le capitaine de vaisseau Nicolas Barré, adjoint interarmé du commandant supérieur des FANC.
Il est 11h43, une première pause dans ce journal, puis nous partirons dans le nord où s'est ouverte la 31e foire de Koumac ce matin.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Attention, bon plan explosif. Profitez de moins 20% de remise sur tous les vêtements Under Armour. Rendez-vous dans votre boutique Project Under Armour Nouméa en plein centre-ville. Offre valable du 26 août au 27 septembre seulement, alors dépêchez-vous.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Et comme promis, direction Koumac, où s'est ouvert ce matin la 31e foire agricole et artisanale. Les visiteurs sont déjà nombreux sur place pour ce premier jour consacré aux professionnels de l'agriculture et de l'élevage. Le reportage de Kélinda Boiscou.
Dès l'ouverture des portes ce matin, les exposants ont envahi le site du champ de foire. Sur les stands, on trouvera jusqu'à dimanche des produits vivriers ou transformés, mais aussi les animaux de la ferme avec le RSMA, sans oublier le matériel agricole et les différents concours. Christophe Chiara, le président du comité foire, nous en dit plus.
Mais magnifique, soleil, bon début de foire. Les gens, ils arrivent tout doucement et puis ben tout se passe bien. Alors aujourd'hui, oui, c'est les concours, donc on attend qu'on nous élise le super champion et super champion de la foire. Hein. Donc dans les races bovines, les concours dans les races caprines, porcines, équines. Donc ouais, on attend qu'ils nous sortent le champion. Ça, on est impatient de savoir c'est qui.
Le super champion de la foire de Coumac est Roy de l'élevage. De la station d'élevage de Carl Michelin, et la super championne est une limousine Uniflore de l'élevage agricole. Présentation avec le directeur de l'UPRA Bovine, Pierre Écarnon.
Bah, on a eu un beau concours avec pas mal d'éleveurs présents quand même, malgré la distance à Coumac. Beaucoup d'éleveurs de province sud, un éleveur de province nord, et des animaux très très bien présentés, très bien menés, et un classement relativement le même qu'à Bouraille. Sauf pour notre super champion qui, cette foire, est un Drottmaster. Alors, le super champion est un taureau de race Drottmaster de l'élevage de Carl Michelin, Roy. Il pesait 1,24 tonnes aujourd'hui. Et il a haut la main remporté le concours parce qu'il présentait tous les critères de la race et il était très très bien présenté. Et la super championne de foire de Coumac est une femelle limousine de l'élevage d'Agrical Balland, station de Winané à Tomo, qui était super championne de foire à Bouraille et qui fait le doublé cette année avec le prix super championne de foire de Coumac. Bon ben tous les deux étaient vraiment des fins représentants de leur race, aussi bien Roy en Drottmaster que Uniflore en limousine. Bilan très positif, un très beau concours, le soleil est là, les ailes. Les éleveurs sont présents, ont présenté très bien les animaux. Franchement, hier, quand ils sont descendus du camion, ils étaient dans un état vraiment pas clean. Et là, ils ont vraiment bossé dur hier pour les rendre impeccables aujourd'hui. Vraiment, très très beau concours.
Une journée qui se clôturera par l'élection de Miss Foire de Coumac et du Nord, prévue à 19h30 ce soir. Cette année, 5 jeunes filles entre 16 et 20 ans se sont présentées et veulent la couronne d'Eva Roumagne, élue en 2023. Présentation des candidates avec Sylvia Decacré, l'une des responsables de l'élection de Miss.
Nous avons 5 candidates. Nous avons Laura Moglia qui pour Calagomène, Alison Eman pour Coumac, Maëlle De Villers, Ponérioin, Élie Courdil, Coumac et Kathleen Colleux pour Coumac.
Pour préparer cette élection, comment ça s'est organisé?
Eh bien, on a fait toute une préparation les samedis. D'abord, on a appris à se connaître parce qu'il fallait qu'elles aient confiance en nous pour qu'elles puissent être épanouies. Elles avaient certaines difficultés au début, c'est tout à fait normal. Elles n'arrivent pas à dégager ce qu'elles doivent dégager, on va dire. Elles ont de la peur, le stress, il y est aussi. Et pour certaines, ben, c'est comme si qu'elles se donnaient un défi. Un challenge pour voir si elles sont capables de le faire, quoi. Elles vont avoir un passage typique. Elles vont avoir un passage cowboy, cowgirl. Elles vont avoir un passage maillot. Elles vont un passage tenue de soirée aussi. Ben, l'objectif, c'est de pouvoir remontrer les jeunes filles qu'elles sont encore capables, parce que oui, elles se mettent tous sur les réseaux et tout, mais pour avoir les jeunes filles à la candidature, c'est très compliqué. La preuve, on n'en a que 5. C'est comme ça, mine de rien, même si la jeunesse aime tout ce qui est réseau, quand on doit se mettre sur une scène, c'est pas du tout pareil, c'est tout autre chose.
La remise des prix des super champions de cette 31e foire agricole et artisanale de Coumac et du Nord aura lieu à 15h, suivie d'une dégustation de viande locale au pôle agricole ou encore des jeux équestres. Du champ de foire de Coumac, Kélinda Boicou, Radio Rythme Bleu.
Merci beaucoup Kélinda et rappelons que Radio Rythme Bleu est présent sur place aussi avec un stand sur lequel vous pouvez passer, rencontrer les équipes et participer aujourd'hui, demain et dimanche encore au grand jeu de la roue. Il y a de nombreux lots à gagner. En bref, les signes d'une reprise d'activité se confirment sur les sites miniers de Nakheti. La SMN, la société des mines de Nakheti qui appartient au groupe Balland, a terminé le chargement d'un minéralier entamé il y a quelques jours. Les sites des différents opérateurs miniers à Nakheti sont désormais accessibles et les salariés s'activent pour une remise en état qui pourrait être le prélude à une reprise d'activité, notamment d'extraction de minerais à partir de la semaine prochaine. Parmi les opérateurs présents à Nakheti, la NMC qui devait entamer hier une procédure de licenciement de 114 personnes mais qui a renoncé alors que l'activité est en train de reprendre. Attention, tirage au sort en vue à 14h, tirage au sort du grand jeu chance. Il faut envoyer chance maintenant au 40-20 si vous voulez avoir une chance évidemment d'être tiré au sort pour gagner. Rappelons-le Thierry, un magnifique lot.
Oui, c'est un séjour au Sheraton des Bains, un cadeau d'une valeur de 153 000 francs, logé 3 nuits au bungalow traditionnel, petit déjeuner inclus pour 2 personnes.
Donc ça vaut le coup, envoyez chance dès maintenant au 40-20, plus souvent vous jouez, plus souvent vous risquez d'être tiré au sort et de remporter ce magnifique lot offert par le Sheraton d'Eva. Attention, tirage au sort à 14h. Vous avez encore un peu plus de 2 heures pour envoyer chance au 40-20. Une pause dans ce journal. Il est 11h49 et dans un instant, on s'intéresse à l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Envie d'une pause gourmande à l'italienne? Dino Pizza vous régale au centre équestre La Gourmette à Magenta. Désormais, découvrez nos petites pizzas et nos géantes à partager. Midi et soir, 7 jours sur 7. Sur place ou en livraison avec Midit, Dino Pizza, téléphone 31 91 92.
Fais appel à tes collègues préférés et participe au CIPAC Challenge. Du 6 au 20 octobre, participez au plus grand challenge sportif inter-entreprise de Calédonie. Vous avez 15 jours pour bouger et faire un maximum de pas. Chaque jour, un défi sera relevé sur l'application pour gagner encore plus de points. Fais gagner ton équipe, ton entreprise ou même ton association pour remporter un des nombreux lots. Inscrivez-vous dès maintenant sur la page Facebook CIPAC Challenge. Le CIPAC Challenge, ensemble, on va plus loin.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Baudin.
Cela fait 10 jours maintenant que Sébastien Lecornu a été nommé à Matignon, mais il n'a toujours pas annoncé la composition de son gouvernement. Il veut avant cela s'assurer d'un certain nombre de soutiens pour éviter d'être sanctionné par une motion de censure lors de la présentation du budget. S'il veut arracher et s'attacher le soutien des socialistes, il va devoir prendre en compte deux sujets sur lesquels le PS pousse ses pions. Un retour sur la réforme des retraites, mais aussi la mise en place de la fameuse taxe Zucman. Cette taxe dont on parle tant porte le nom de son promoteur, l'économiste français Gabriel Zucman, professeur à Berkeley aux États-Unis. Il souhaite taxer à 2% les patrimoines de personnes qui ont des fortunes supérieures à 100 millions d'euros. Une thèse qui rencontre aussi des oppositions, y compris parmi les économistes. Gabriel Zucman était la nuit dernière pour nous face aux entreprises de la French Tech à côté de Paris. Le reportage d'Aurélien Fleureau pour Europe 1.
Sur l'estrade, t-shirt blanc à manches longues, Gabriel Zucman, ancien professeur d'économie à Berkeley, fait de la pédagogie.
Si vous payez trop peu, eh ben vous allez devoir payer le complément pour arriver à 2%.
Sauf qu'ici, il n'y a pas que des élèves. L'autre économiste invité est Philippe Aguillon. Il a été prof à Harvard.
Tu ne peux pas faire la taxe Zucman en France seulement. Tu vas transformer la France en prison fiscale. Et pour moi, ça ne fait pas sens, Gabriel. Si tu es quelqu'un qui démarre une boîte et est très valorisé, tu n'es pas un homme riche, tu n'as pas les revenus.
Et quand Gabriel Zucman fait une proposition, l'assistance n'est clairement pas convaincu.
Quand vous êtes à ce niveau de richesse, vous devez être dans le champ de la solidarité nationale. Vous ne pouvez pas vous en extraire. Mais simplement, on ne va pas vous demander de générer des liquidités qui n'existent pas. Il y a différentes façons de faire. Vous pouvez emprunter, si vous voulez. Vous pouvez... Non, mais alors...
Dans le public, Guillaume, ce jeune entrepreneur dans l'IA, a passé une bonne partie des 50 minutes à lever les yeux au ciel.
Il parle beaucoup d'histoire et j'aimerais bien qu'il regarde l'histoire norvégienne et qu'il explique comment faire par rapport au fait que 50% des revenus des hauts patrimoines ont disparu à cause d'une taxe équivalente.
Il n'a rien contre le principe de la redistribution, mais il se désole du manque de réalité économique de cette taxe.
Le reportage d'Aurélien Fleureau. 500 000 personnes réparties dans 250 cortèges dans les rues des principales villes de France. La journée de mobilisation et de grève lancée par les syndicats s'est globalement déroulée dans le calme. Les manifestants se sont mobilisés pour dénoncer l'austérité budgétaire annoncée. Et à l'issue de la journée de mobilisation, le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, s'est félicité de l'efficacité des forces de l'ordre.
Globalement, il y a moins de participation dans les grandes agglomérations, mais qu'on note dans les plus petites agglomérations, dans des villes de province, participation qui, elle, a été relativement soutenue. On est, voyez, à un peu plus de 500 000 participants. Je souligne que dans la quasi-totalité des cas des cortèges, les manifestations se sont déroulées dans de bonnes conditions, en province, à Paris aussi. Je voudrais aussi remercier les organisations syndicales qui ont permis justement, en lien avec les préfectures, avec les forces de l'ordre, de faire en sorte que ces cortèges, ces manifestations se déroulent dans les meilleures conditions possibles.
Il y a quand même eu des débordements dans certains cortèges, notamment Paris, Lyon ou encore Rennes. La journée s'est finalement soldée par 309 arrestations et 134 gardes à vue. Les policiers de Tourcoing sont en colère. L'un de leurs collègues de la BAC a été violemment agressé et pris à partie par plusieurs jeunes alors qu'il intervenait sur un vol de trottinette il y a quelques jours. Deux des principaux accusés ont été remis en liberté. L'affaire fait du bruit. Maximilien Carlier pour Europe 1.
Et on a appris ce matin que le parquet de Lille allait faire appel de la décision concernant le majeur, âgé de 19 ans, relâché sous contrôle judiciaire strict. Il a obligation de pointage, interdiction de venir à Tourcoing. L'autre suspect, un mineur également libre, fait l'objet d'un placement en centre éducatif renforcé. Frédéric Monchot est le délégué syndical Alliance Police Nationale dans le Nord. Il est scandalisé.
Écœurement et fatigué d'avoir ces décisions qui sont prises comme telles.
relâché deux individus auteurs principaux de ces faits, être libérés sous contrôle judiciaire, avoir juste passé trois jours en prison. Pour nous, ouais, on est en colère. Ils n'ont pas de casier judiciaire, donc est-ce qu'il faut attendre que quelqu'un ait un casier judiciaire pour le mettre en prison? Moi, je ne pense pas, parce que vu le déferlement de violence, de haine, un lâchage public remis en vidéo, non, pour moi, il fallait une peine ferme.
Car on ne parle pas d'une simple claque, ajoute-t-il. Notre collègue a eu le nez cassé, cloison nasale déplacée, pommette enfoncée, agression particulièrement violente sur fond de vol de trottinette. Un rassemblement organisé par le syndicat Alliance aura lieu demain midi devant le commissariat de Tourcoing.
Toujours au chapitre des faits divers, un homme abattu par la police à la Seyne-sur-Mer. Il était à proximité d'une école maternelle et primaire en possession d'une machette et il s'est montré particulièrement menaçant, raconte le maire de la commune, Joe Minitti.
Il menaçait, il a même tapé des enfants. C'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, selon les policiers sur place, ils ont tenté de le raisonner, ça n'a pas marché. Ils ont utilisé un taser, ça n'a encore pas marché, jusqu'au moment où ils se dirigeaient vers eux avec une grande machette à la main, et c'est là qu'ils ont tiré.
6 tirs sur le bas du corps et l'homme n'a pas survécu à ses blessures. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes, dont l'une sur les conditions dans lesquelles les policiers ont fait usage de leur arme. Les relations entre la France et Israël ne risquent pas de s'améliorer. À une semaine de la reconnaissance par la France d'un État palestinien, Emmanuel Macron était interrogé sur la 12e chaîne israélienne. L'État hébreu détruit son image et sa crédibilité, affirme le chef de l'État qui a attaqué frontalement la stratégie militaire israélienne dans la bande de Gaza, Arthur Delaborde.
Sa position choque et interroge en Israël. Emmanuel Macron défend sa décision de reconnaître un État palestinien.
Pour moi, la perspective n'est pas seulement de reconnaître, mais mon point est simplement de dire d'abord la reconnaissance de l'État palestinien est la meilleure façon d'isoler le Hamas.
Le président français met en avant une logique politique, mais critique aussi la stratégie militaire menée à Gaza.
Mener ce genre d'opération à Gaza est totalement contre-productif. Et je dois le dire, c'est un échec. Car dans ce cas, vous faites tant de victimes civiles, vous détruisez complètement l'image et la crédibilité d'Israël, non seulement dans la région, mais dans les opinions publiques partout.
Pour autant, Emmanuel Macron dit vouloir poursuivre le dialogue avec Benjamin Netanyahou, qu'il assure respecter. Il précise avoir proposé de se rendre en Israël avant d'annoncer officiellement la reconnaissance de l'État palestinien devant l'ONU. Une visite finalement refusée par les autorités.
Il est 11h et bientôt 57 minutes. La dernière pause de ce journal. On parle sport ensuite et on retrouvera après le magazine Transparence.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Solenco, la référence pour la pose de vos sols. Parquet, sol souple, ragréage, particulier ou pro, choisissez la qualité. Solenco, 83 92 99. Solenco, la qualité sous vos pas.
Samedi 27 septembre de 8h à 13h, foncez au complexe Le 4. Vente flash sur les croquettes pour chiens et chats. Un paquet acheté égale un offert. Vos animaux se régalent et la bande à nounous reçoit 10% des ventes. Offre valable uniquement le 27 septembre. Plus d'infos sur Facebook, Le 4. Le 4, 186 rue Jacques-Yécaoué. Faites vos courses autrement.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on va commencer par le football et Monaco qui a complètement raté Léo Fichou sa rentrée européenne.
Des débuts catastrophiques, il faut le dire, en Ligue des Champions pour les joueurs du Rocher. Ils se sont inclinés 4-1 en Belgique sur la pelouse du Club Bruges. Même score pour le Sporting Portugal sur les Kazakhs du Kairat Almaty. L'Eintracht Francfort a écrasé Galatasaray 5-1. Copenhague et le Bayern Leverkusen ont fait match nul 2-2. Manchester City a dominé Naples 2-0. Et enfin, le Barça est venu à bout de Newcastle 2-1.
Alors cette première journée de Ligue des Champions vient de se terminer. On regarde déjà vers la prochaine journée.
Et oui Jean-François, puisque dans deux semaines, on aura le droit à un choc au sommet entre le FC Barcelone, vainqueur de Newcastle 2-1 ce matin, et du PSG, champion d'Europe en titre, vainqueur de l'Atalanta Bergame 4-0, c'était hier. Un match entre le champion d'Europe donc et le champion d'Espagne, déjà sur toutes les lèvres. Le défenseur français du Barça s'est exprimé sur cette rencontre.
Bien sûr, c'est un match très motivant à jouer contre une très belle équipe, champion d'Europe. Donc c'est un match aussi, je pense, qui est attendu par les spectateurs de football depuis la saison dernière et avec l'historique qu'il y a entre les deux clubs. Donc on a hâte de pouvoir jouer contre eux.
Jules Koundé, défenseur donc du Barça. Le FC Barcelone qui affrontera le PSG dans le 2 octobre à 6h du matin pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Champions. À la même heure, Monaco accueillera Manchester City. La veille, le 1er octobre, toujours à 6h, Marseille recevra l'Ajax Amsterdam.
Un mot de volée avec cette grosse désillusion pour l'équipe de France. Les Bleus, qui sont doubles champions olympiques, sont tout simplement éliminés dès les phases de poule de la Coupe du Monde. Ils se sont inclinés 3-7 à 2 hier soir face à l'Argentine lors du dernier match qui était décisif des phases de poule. On va terminer avec du cyclisme dans la région. Léo, et la suite du Tour Tahiti Nuit. La cinquième étape longue de 102 km s'est courue à Moréa dans des conditions très difficiles.
Beaucoup de vent, effectivement, et notamment dans la montée finale du Belvédère d'Opounohou. Dès les premiers kilomètres de l'étape, Hugo Pommelet et Kéryl Moutry se retrouvent à l'avant dans une échappée avec trois autres coureurs. Finalement, c'est l'Américain Bradley Wiggs qui est arrivé en tête au sommet. Il s'impose avec environ 40 secondes d'avance sur Gwendy Duval. Hugo Pommelet complète le podium du jour. Le Calédonien termine à un peu moins d'une minute du vainqueur. Il récupère également le maillot vert de meilleur sprinter.